Bonjour à tous, auditeurs, internautes, et bienvenue donc à cette cinquième séance sur la sécurité du logiciel. Et aujourd'hui, on va parler des liens entre typage des langages de programmation et sécurité du logiciel. Donc c'est un sujet qu'on a déjà effleuré un certain nombre de fois, l'idée frappé au coin du bon sens que la sûreté de l'exécution est nécessaire à la sécurité du logiciel. Si on n'a pas quelques propriétés de base sur l'intégrité de l'exécution, sur le fait qu'on n'accède pas en dehors des tableaux, que l'intégrité de la mémoire, donc la sécurité est compromise. Mais on va essayer donc de préciser un peu cette intuition en étudiant donc la contribution du langage de programmation et en particulier du typage fort du langage de programmation comme d'abord le principal moyen de garantir cette sûreté de l'exécution et ce qui est un petit peu plus difficile c'est comme un moyen à caractériser, c'est comme un moyen d'obtenir des garanties supplémentaires de sécurité qui vont au-delà de la sûreté de l'exécution et donc on va voir ce qu'on peut dire de ce point de vue-là. Mais donc, je vais commencer par un petit retour, un petit historique sur le typage dans les langages de programmation. Alors, la notion de type est assez évidente, assez intuitive dans le monde qui nous entoure. Il y a des sortes de choses qu'il ne faut pas confondre. Un certain nombre de dictons comme ça, on n'additionne pas des choux et des carottes. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et de l'autre côté de la manche, they don't compare apples and oranges. D'accord. Et après, on retrouve ce genre d'intuition dans d'autres domaines des sciences particuliers. J'aime bien les équations aux dimensions en physique. L'idée que chaque grandeur manipulée dans une équation physique a une dimension et que, par exemple, une égalité se fait forcément entre quantités de la même dimension. Donc écrire D égale V fois T, où V est une vitesse et T un temps, c'est homogène. Les deux membres sont de dimension distance. Alors que écrire D égale V divisé par T, c'est absurde. À gauche, vous avez une distance, et à droite, vous avez une distance divisée par un temps, divisée par un temps. C'est pas homogène, c'est forcément faux d'un point de vue physique. Et alors, dans les langages de programmation, en fait, la première utilisation des types, ce n'est pas tant pour reconnaître des programmes faux que pour faciliter leur compilation. Donc, dès en Fortran, en 1957, il y a l'idée que, par exemple, c'est pas sympathique si une même variable peut contenir de temps en temps un entier ou de temps en temps un nombre à virgule flottante, et on ne sait pas trop comment le compiler. Donc il y a cette idée qu'on va déclarer des types pour les variables, pour les tableaux, qui vont déterminer la représentation en mémoire des données et guider la production du code machine. Alors j'ai mis un petit exemple en C parce que je ne sais pas écrire en Fortran. Donc j'ai déclaré un tableau T de flottant, une matrice de 10 fois 20, et une variable entière I, une variable flottante X. Et donc rien qu'en voyant cette déclaration, le compilateur sait, entre guillemets, quelle est la représentation en mémoire de T. Ça va être 200 cases de 4 octets chacune, puisqu'un flottant, je suppose qu'un flottant fait 4 octets, et elles vont être arrangées en mémoire de cette manière, donc contiguës, et en faisant varier la deuxième dimension d'abord, puis la première ensuite. Et du coup, lorsque le compilateur voit une expression comme ça, il n'y a pas de doute à avoir sur, d'abord, comment calculer l'adresse à laquelle il faut charger un flottant. À partir de l'adresse de T, il faut ajouter 4 fois x fois 10 plus y. Et aussi, il n'y a pas de doute sur le fait que la variable i, en entier, doit être convertie en flottant avant de pouvoir faire les multiplications et les additions au type float. Bon. Peut-être la deuxième utilisation des types, historiquement, c'est toujours pas pour vérifier, pour trouver des bugs, c'est pour modéliser, donc pour déclarer dans le programme, décrire dans le programme précisément la structure des objets manipulés par le programme. Et ça, c'est une proposition qui est faite par Tony Hoare en 1965, donc il propose d'ajouter à Algol 60, qui avait peu de types de données, hein, juste des nombres et des tableaux, une méthode pour représenter des objets structurés complexes et pour les manipuler par le programme. Et donc, c'est la naissance des enregistrements, les records. Donc, un enregistrement qui est une collection de champs qui ont un nom et un type. Donc, ici, on a l'exemple classique des points colorés avec deux coordonnées X et Y qui sont des flottants et une couleur C. Et c'est dans le même article que Hoare introduit la notion de référence pour pouvoir pointer d'un enregistrement à un autre et décrire ainsi des structures de données arborescentes ou même des graphes en mémoire. Donc là, une liste chaînée avec, dans le champ tail, un pointeur vers une liste. Hoare appellera ça plus tard sa 1000... Donc les références, c'est très bien. En revanche, il faut aussi la référence nulle pour pouvoir représenter la liste vide, notamment. Et Hoare regrettera plus tard d'avoir introduit cette notion de référence nulle en disant que c'était sa $1 billion mistake. Et donc voilà un petit exemple tiré de la note de Hoare, c'est représenter des personnes et leurs liens de parenté. Et donc il propose cette syntaxe algolienne où un record personne se compose d'un champ date of birth, qui est un entier, d'un champ mail, qui est un booléen, c'est pas très woke tout ça, et d'un certain nombre de références vers des personnes qui sont père, mère, plus jeune descendant et plus âgé frère ou sœur. Et avec ça, on arrive à décrire donc les liens de parenté. Et donc l'idée que les types permettent d'éviter des erreurs de programmation, ça arrive un tout petit peu plus tard, et encore une fois, c'est dans une note de Tony Hoare que c'est écrit, sans doute pour la première fois. Donc j'aime beaucoup la remarque qu'il fait. Donc, alors il ne parle pas encore de type, il parle de langage de haut niveau. Et il dit que bah oui, ça réduit la possibilité d'erreur, parce que, par exemple, en code machine, c'est facile de faire des erreurs stupides, comme d'utiliser une addition entière ou une addition en virgule fixe sur des nombres en virgule flottante, ou bien faire de l'arithmétique sur des valeurs booléennes, ou bien permettre à des pointeurs dans des tableaux, modified addresses, de sortir des bornes du tableau. Et donc, il fait remarquer que lorsqu'on utilise un langage de haut niveau, de telles erreurs sont évitées de trois manières différentes. La première, c'est essentiellement par le compilateur, ce qu'on avait vu pour le Fortran ou le C, ou Algol d'ailleurs. Aucun programme ne peut, produit par le compilateur ne va utiliser une instruction arithmétique entière sur une donnée de type flottant. D'accord. À l'extrême rigueur, il va insérer une coercion flottant vers entier avant de faire l'instruction arithmétique entière. Mais donc c'est d'une certaine manière évité par construction. La deuxième catégorie, qui est celle qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui, sont des erreurs comme de faire de l'arithmétique sur des valeurs booléennes, qui peuvent être immédiatement détectées par le compilateur et ne vont jamais causer de problème pendant l'exécution. Donc ça, c'est l'idée même du typage statique. Et la troisième catégorie d'erreurs, c'est par exemple utiliser un indice de tableau en dehors des bornes du tableau, et peuvent, et doivent d'ailleurs, être détectées par des tests à l'exécution. Voilà. Et à peu près en même temps, donc cette idée du typage comme vérification d'un programme pour éviter des erreurs, apparaît très clairement dans la thèse de doctorat de PhD de Morris en 1970, où c'est peut-être la plus ancienne occurrence de l'expression type system, système de type, dans un contexte de langage de programmation. Bien sûr, les logiciens utilisaient les systèmes de type depuis fort longtemps, mais donc dans la thèse de Morris, il propose, après avoir introduit un langage de programmation fonctionnel qui s'appuie sur le lambda calcul, il propose d'y mettre un système de type qui va décrire un sous-ensemble décidable des expressions qui sont sûres, c'est-à-dire qui ne peuvent pas donner lieu à erreur pendant la réduction. Et en fait, le système de Morris, c'est essentiellement les types simples pour le lambda calcul, mais qu'il a plus ou moins réinventé, sans par exemple faire référence aux travaux de Church 1940 sur le lambda calcul simplement typé. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur cet aspect typage et sûreté de l'exécution. Et en commençant par Donc un autre article extrêmement influent, donc quelques années plus tard, 1978, l'article de Robin Milner, intitulé « A Theory of Type Polymorphism in Programming ». Bon, c'est là qu'il décrit le typage à l'AML, donc typage d'un langage fonctionnel avec du polymorphisme. Mais cet article est aussi absolument remarquable parce qu'il contient peut-être la première caractérisation précise de ce que c'est qu'un bon système de type. Et donc il propose cette caractérisation, une expression ou un programme qui, à laquelle on peut associer un type, donc qui est bien typé, ne peut pas « cannot go wrong ». Alors, cette expression « cannot go wrong » est extrêmement difficile à traduire parce qu'il y a un peu un jeu de mots et il y a plusieurs sens possibles. Donc je vous propose de traduire ça par « mal tourner ». Donc l'exécution d'un programme bien typé ne peut pas mal tourner. Et donc par la suite, cette propriété « cannot go wrong » sera souvent prise comme définition de ce qu'est un système de type correct. Alors, qu'est-ce que ça signifie « going wrong » chez Milner ? Bon, c'est à la fois une expression du langage courant et une référence à sa formalisation. Il donne à son langage une sémantique dénotationnelle qui utilise des domaines de Scott. Donc, la sémantique donne associe à une expression et à un environnement qui donne des valeurs aux variables, une valeur, et une valeur étant donc soit « bottom » pour un termes qui divergent, soit un entier, soit d'autres types de bases, soit une fonction des valeurs dans les valeurs, si c'est une valeur fonctionnelle, ou cette valeur spéciale, wrong. Et donc, Milner utilise wrong comme la dénotation des expressions absurdes. Alors, par exemple, 1 appliqué à 2. On prend l'entier 1 et on l'utilise comme si c'était une fonction. Ou 1 plus lambda x, x. Donc on donne une valeur de fonction, la fonction identité, lambda xx, là, dans un contexte qui attend une valeur entière. Et donc, wrong est utilisé pour donner un sens, une dénotation à ces expressions absurdes. Alors aujourd'hui, on aime bien formaliser les langages un petit peu différemment, avec plutôt des sémantiques opérationnelles en termes de réduction, c'est-à-dire donc l'idée qu'on réécrit le programme et chaque étape de réduction correspond à une étape de calcul. Par exemple, on donne aujourd'hui la sémantique de l'application de fonction, on l'appelle par valeur, par cette règle de réduction qui est un peu la bêta-réduction du lambda calcul. Si vous avez une fonction, lambda x.a, qui est appliquée à une valeur, alors en une étape de calcul, vous pouvez réduire ça en le corps de la fonction a où le paramètre formel x est remplacé par l'argument effectif v. Et ensuite, ça va permettre de réduire à l'intérieur du corps de la fonction. De même, si vous avez une addition, un opérateur add, appliqué à deux constantes entières, n1, n2, vous allez pouvoir réduire en une constante n, qui est la somme de n1 plus n2. Et après, ben, on a des règles aussi de contexte, donc qui permettent de réduire à gauche d'une application, dans la partie fonction, jusqu'à ce que ce soit une lambda, puis à droite de l'application, dans la partie argument, jusqu'à ce que ce soit une valeur. Et finalement, on va pouvoir appliquer cette règle et calculer dans le corps de la fonction. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'on représente généralement les termes qui go wrong, en fait, on ne les représente pas. Ce sont ceux qui ne se réduisent pas. D'accord ? Tourner mal, on ne décrit même pas les cas où on tourne mal. Et par exemple, 1 appliqué à 2 ne se réduit pas d'après ces règles. D'accord ? Il n'y en a aucune. Qui a la bonne forme. De la même manière, add de 1 et de lambda xx ne se réduit pas non plus. Et donc, voilà. Donc, c'est une manière de décrire les termes qui tournent mal. Et alors, pour plus de détails, vous pouvez vous reporter à mon cours d'il y a 2 ans dans la série sémantique mécanisée où on avait fait la sémantique d'un langage fonctionnel. Et donc, pour résumer, l'exécution de A donc, est vue comme une suite de réduction, un programme entier A est vu comme une suite de réduction, qui peut terminer sur une valeur, diverger, c'est-à-dire qu'on a une suite infinie de réduction, le programme ne termine pas, ou mal tourner, on rencontre une de ces expressions B qui ne se réduit pas et qui n'est pas une valeur. Et donc la sûreté du typage, le fait qu'un système de type remplit son rôle, est caractérisé à la mineure par ce théorème. Si A est bien typé dans l'environnement vide, alors le cas going wrong est impossible. Soit il termine, soit il dit normalement, soit il diverge. Et il y a une démonstration classique qui s'appuie sur les propriétés de préservation du typage par réduction et de progression. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, je ne vais même définir aucun système de type aujourd'hui. D'accord, je ne vais pas vous montrer la règle d'inférence. J'essaye juste donc de caractériser sémantiquement ce que ça veut dire qu'un programme est bien typé. Quelles sont les conséquences de ça? Alors, comme l'avait remarqué Horn dans son point numéro 3, un système de type simple ne peut pas éliminer toutes les sources d'erreur à l'exécution. Typiquement, il y a les accès hors borne de tableau qui ne sont pas contrôlés par un système de type, ou les erreurs arithmétiques comme les divisions par zéro ou les divisions entières par zéro ou le débordement. Typiquement, on n'a pas de type des entiers non nuls qui permettrait de donner à la division le type int flèche int étoile, int non nul flèche int. On a juste un type int des entiers, la division c'est int flèche int flèche int. Le système de type ne peut pas exclure qu'on divisera par zéro, et donc c'est une erreur qui reste à détecter à l'exécution. Donc c'est une vérification dynamique, et si elle échoue, elle peut provoquer soit l'arrêt en erreur immédiat de l'exécution, soit éventuellement la levée d'une exception que le reste du programme peut rattraper et gérer. Et le point important, c'est que dans les deux cas, le programme n'est pas en train de mal tourner. Ce n'est pas going wrong, c'est une erreur qui est prévue et maîtrisée. Et alors, comment on rentre ça dans nos sémantiques à réduction? Par exemple, on peut ajouter un terme spécial, R, et donc des termes comme la division de n par 0 vont se réduire en R, alors que la division de n par n2 qui n'est pas 0 va se réduire normalement. Alors, cette erreur, il faut savoir la propager à travers l'exécution. Par exemple, si elle apparaît à gauche ou à droite d'une application, on se réduit vers R. Et donc, du coup, si on ne fait rien de spécial, en fait, le programme tout entier se réduit vers R. Et on peut ajouter des constructions de gestion d'erreur, de rattrapage d'erreur. Donc, handle évalue un terme, et s'il fait une erreur, évalue l'autre terme. Handle AB, donc qui évalue A, et si A fait une erreur, va évaluer B. Mais ce n'est même pas obligatoire. Et du coup, on a un résultat possible supplémentaire pour l'exécution d'un programme tout entier, qui est la terminaison sur une erreur, mais une erreur bien maîtrisée. Et du coup, mal tourné, c'est terminé sur un terme qui ne se réduit pas, et n'est pas une valeur, et n'est pas une erreur bien maîtrisée. Et ça, ça rentre aussi très bien dans une approche de typage statique. Il suffit de dire que l'erreur a tous les types possibles, de la même manière que la levée d'une exception en camel, le type alpha pour tout alpha. Alors maintenant, il faut quand même parler un peu des langages dynamiquement typés. Donc Milner pensait à des langages à l'AML, donc avec un typage statique, mais on a aussi beaucoup de langages dynamiques autour de nous, des langages de script notamment, et c'est important quand même de pouvoir faire la différence entre un langage dynamiquement typé, mais avec un typage sûr et fort, d'un langage non typé, comme l'assembleur, par exemple, où tout peut arriver à l'exécution. Donc, dans une approche de typage dynamique, il n'y a pas de cas où l'exécution tourne mal, il n'y a que des erreurs normales. Donc, il n'y a pas de going wrong, mais il y a des erreurs. Et ça peut se modéliser en ajoutant des règles de génération d'erreurs à la sémantique dynamique. Par exemple, une variable libre, une variable non liée, inconnue, se réduit en une erreur. Une application d'un entier, comme si c'était une fonction, se réduit en erreur. Et une addition qui fait intervenir une valeur de fonction se réduit en erreur. Alors du coup, c'est un peu paradoxal. Le cas tourné mal de l'exécution devient impossible, puisque tout terme qui n'est pas une valeur ou qui n'est pas erreur peut se réduire, dans le pire des cas, par une de ces règles-là. Et donc le typage dynamique est sûr, au sens de Milner. D'accord, tous les termes sont bien typés et aucun ne tourne mal à l'exécution. Mais c'est juste, en fait. Alors, maintenant, quand on parle de sécurité, cette modélisation de going wrong, des termes qui tournent mal, peut donner la mauvaise idée. On peut donner l'idée que, en gros, c'est des termes qui plantent. et qui plantent peut-être salement, mais plantés au sens qu'ils vont arrêter leur exécution. D'accord ? Par exemple, ici, on arrive sur un terme un terme A qui ne se réduit pas, qui n'est pas une valeur, et on dit on arrête l'exécution. Honnêtement, planter, même salement, même par un segmentation fault, par exemple, en termes de sécurité, ça n'est pas un gros risque. D'accord ? C'est un problème de disponibilité, le programme est moins disponible, mais ça n'est pas un problème d'intégrité ni de confidentialité, on n'a pas produit de résultats faux, on n'a pas corrompu une base de données, on n'a pas divulgué un secret. Et du coup, il y a une notion que je trouve intéressante dans les langages, dans les standards C et C++, c'est la notion de comportement indéfini, de « undefined behavior », à la place de « going wrong », de « tourner mal ». L'idée, c'est que, effectivement, dans toutes ces situations bizarres, appliquer une fonction, un entier comme si c'était une fonction, par exemple, tout peut arriver. D'accord ? C'est pas juste qu'on peut planter salement sur une segmentation fault, c'est aussi qu'on peut se retrouver à exécuter du code qui est à l'adresse indiquée par l'entier. D'accord ? On peut aussi vouloir adapter notre modélisation pour que ce soit vraiment clair, cette notion de comportement indéfini. Alors, un premier essai, c'est juste de dire que les termes à problème, les termes qui tournent mal, se réduisent. Ils se réduisent vers n'importe quel terme A. Donc, par exemple, si c'est ce que je disais tout à l'heure, un entier N qui se trouve être une adresse de fonction appliquée à une certaine valeur, en fait, va exécuter la fonction qui se trouve là-bas. De même, si on additionne une fonction à un entier, peut-être qu'on va obtenir un autre entier, qui sait. Et bien sûr, on peut aussi se réduire vers R, donc une erreur qui va arrêter l'exécution, ou on peut se réduire vers infiniment, ou voilà. Donc, tout peut arriver. Ou presque. Certains comportements indéfinis ne sont même pas exprimables dans le langage de programmation. Même en C, par exemple, vous pouvez avoir des comportements indéfinis qui vont changer la valeur d'un registre spécial du processeur, qui normalement ne serait pas accessible depuis le langage source. Ou si vous êtes dans un langage fonctionnel pur, peut-être que la fonction qui se trouve à l'adresse N, elle va faire une entrée-sortie. Et du coup, votre programme, il fait une entrée-sortie alors que votre langage d'origine est un langage pur. Bon. Donc, ce n'est pas une modélisation idéale, mais on s'approche quand même un peu. Par ailleurs, un autre problème un peu plus pratique, enfin, du point de vue de la formalisation, ce n'est pas très sympa non plus, parce que maintenant, quand on a une séquence de réduction, on ne peut pas le distinguer de manière évidente, celles qui se passent bien, de celles qui ont déclenché un comportement indéfini et font n'importe quoi. Du coup, on peut changer un petit peu ça. Alors, on peut réintroduire un terme spécial, wrong, comme chez Milner, et dire les termes à problème se réduisent vers wrong qui n'est pas une erreur, a priori, mais wrong, après, se réduit vers n'importe quel terme. Donc wrong peut se réduire vers erreur, wrong peut se réduire vers un calcul arbitraire, wrong peut se réduire vers wrong, pas tout. Voilà. Et du coup, les séquences de réduction qui se passent bien, correspondent à l'exécution d'un programme, en particulier d'un programme bien typé, sont celles qui ne passent jamais par la case wrong. Bon, donc ça, c'est une modélisation qui se rapproche un petit peu plus des préoccupations de sécurité. Mais maintenant, je voudrais montrer quelques autres garanties qu'on peut obtenir par typage et qui, en fait, vont au-delà de juste l'exécution ne plante pas, l'exécution ne tourne pas mal, pardon, ou l'exécution ne provoque jamais de comportement indéfini. Alors, l'une d'entre elles, c'est autour de la notion d'abstraction de type, donc de type abstrait, et la notion sémantique correspondante, qui est l'indépendance vis-à-vis des représentations. Et donc ça, ça a été en particulier l'objet de réflexions intenses et tout à fait intéressantes, et d'un travail précurseur par John Reynolds dans les années 70. Par exemple, en 1974, il observe donc que dans un langage bien typé, la signification d'un programme valide ne devrait jamais dépendre de la représentation concrète utilisée pour ces types primitifs. Et par exemple, le typage d'un langage donc, va distinguer les types de base même lorsqu'ils ont les mêmes représentations dans la machine. Un nombre entier, un nombre à virgule flottante, une référence, un pointeur, c'est tous les trois des mots de 64 bits, par exemple. Mais le typage empêche de les confondre, et en particulier de prendre un entier et de l'utiliser comme une référence. De la même manière, une chaîne de caractères ou le code pour une fonction, la mémoire, à la fin, c'est des tableaux d'octets, mais le typage ne va normalement pas permettre de prendre une chaîne de caractères et de l'appeler, de sauter vers la chaîne comme si c'était un code de fonction. Et alors, oui, ça joue un rôle crucial pour notamment les techniques que je vais appeler d'encapsulation fonctionnelle. Je crois que Reynolds parle d'abstraction de procédurale. C'est des techniques qu'on avait un peu vues il y a 2 semaines dans le cours sur la sécurisation des API, où l'idée, c'est qu'on a une ressource un peu sensible, comme par exemple ici un compteur, donc on ne veut pas donner accès direct au compteur à l'utilisateur de notre bibliothèque, mais on veut donc l'encapsuler dans une fonction qui donne un accès contrôlé, ici, incrémenter le compteur et renvoyer sa valeur courante. Et donc l'idée de pourquoi c'est sûr, pourquoi c'est sécurisé, ça, c'est parce que la portée statique de counter, c'est juste ça, c'est juste la fonction qui va être liée à next, et donc dans aucun autre endroit du programme, on ne peut accéder à counter puisqu'il est en dehors de sa portée. Ceci dit, en mémoire, next, ça va être représenté par une fermeture de fonction, donc essentiellement un bloc, une paire, avec un pointeur de code, et puis les variables libres, ici il n'y en a qu'une, c'est counter. Et donc si on n'avait pas de typage, si on n'avait pas ce typage qui nous empêche de confondre fonction et paire, tout le monde pourrait accéder à counter. D'accord ? Il suffirait de dire, bon, je considère next comme une paire d'un type quelconque et d'une référence d'entier, j'extrais la seconde composante, et si je connais bien mon compilateur Camel, ça devrait renvoyer la référence, et donc tout le monde peut y accéder. Bon. Voilà. Donc, des propriétés de... On cache les représentations des différents types du langage. Et l'observation suivante de Reynolds, en fait, qu'il attribue gentiment à Morris en 1970, c'est que cette propriété d'indépendance vis-à-vis des représentations concrètes des données devrait aussi pouvoir être vrai pour des types définis par l'utilisateur. Et donc, en tant que programmeur, je devrais pouvoir donc, définir un type de données en termes d'autres types existants du langage et cacher ensuite cette définition et donc, du coup, obtenir un nouveau type abstrait au sens il est a priori différent des autres, de la même manière que int est a priori différent de float. Et du coup, le seul moyen d'utiliser les valeurs de ce type, c'est de passer par les opérations que j'aurais fournies pour ce type. Alors, un petit exemple concret, et très, d'inspiration très sécuritaire aussi, ce sont les capacités, les capabilities. Donc, on a déjà vu un petit peu, notamment dans les architectures à capacité, comme Cherry. Donc une capacité, c'est un ensemble de permissions, de droits d'accès, de droits de faire des choses, mais il est essentiel qu'une capacité puisse pas être falsifiée, que l'utilisateur, par exemple, puisse pas construire son propre ensemble de permissions, il se donne tous les droits et dit, ben voilà, c'est ça ma capacité, maintenant je peux tout faire. Et donc une valeur de type capacité doit être intègre, ne doit pas être falsifiable par l'utilisateur. Alors, dans les architectures comme Cherry, c'est fait avec des mécanismes hardware supplémentaires, un bit de plus, des choses comme ça. Dans d'autres contextes, on pourrait envisager d'avoir des signatures cryptographiques, par exemple. Une capacité, c'est celle qui a une signature de l'autorité. Mais en fait, ça se prête extrêmement bien à l'abstraction de type. Et donc ici, alors je fais ça en utilisant les mécanismes de Camel, donc qui sont les modules avec donc la structure qui est la définition et la signature qui est une contrainte, qui dit ce qu'on peut voir de l'extérieur de la structure. Et donc la signature dit, ben, il y a un type T, mais ne précise pas là son implémentation. Il y a une opération init qui vous renvoie une permission, une capacité initiale. Il y a un test, la load, pour savoir si on a ou non une permission. Et il y a la possibilité d'abandonner une permission, de l'enlever. Mais il n'y a aucun moyen d'ajouter les permissions. Et donc, parce que cette signature donc, a caché le fait que le type T est implémenté comme un ensemble de permissions ou une liste de permissions, les clients de Kappa, pour eux, le type Kappa.t, c'est comme float, c'est comme int/int, il est opaque. Et les seules valeurs possibles de ce type sont celles obtenues à partir de init et en appliquant drop éventuellement sur le résultat de init. Voilà. Donc un très bon fit entre cette notion de valeur d'abstraction de type et cette notion de capacité comme valeur qu'on ne peut pas falsifier. Alors dans les langages à objets, on a des mécanismes similaires mais un peu moins clairs, parce qu'ils s'appuient en fait sur l'utilisation astucieuse des modificateurs de visibilité. Mais en gros, on peut avoir un objet capacité qui soit intègre à condition de cacher, donc de rendre privé à la classe, l'état interne d'abord, donc la représentation par un type T, liste de permissions par exemple, mais aussi tous les constructeurs par défaut. Et du coup, là aussi, en dehors de la classe, le seul moyen de construire un objet de type kappa, c'est en passant par init ou par drop. Et alors, un point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est que l'abstraction de type, ça va au-delà de la sûreté de l'exécution, au sens où un système de type peut garantir la sûreté de l'exécution, au sens de Milner, « Well-typed programs do not go wrong », sans pour autant respecter cette abstraction de type. L'exemple, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais cette fois-ci en utilisant non pas CAMEL, mais StandardML. StandardML donne un sens légèrement différent à ses contraintes de signature. Et donc en StandardML, une contrainte de signature comme ça, qui ne révèle pas l'implémentation du type T, en fait laisse transparaître l'implémentation kappa.t égale permission list. Et donc, le client peut en fait construire une liste de permissions et de type permission list et prétendre qu'elle est de type kappa.t et la passer à toute fonction qui attend une valeur de type kappa.t. Donc, la sécurité n'est plus assurée. En revanche, la sûreté de l'exécution est assurée puisque c'est vrai qu'une liste de permissions est une valeur bien formée du type permission list. D'accord ? Donc on peut l'utiliser comme une liste de permissions, ça ne va pas provoquer de comportement indéfini. Et d'ailleurs, on a un peu la même chose ici, dans ce code Java. Si le compilateur ou la machine virtuelle Java ignore les modificateurs de visibilité, d'accord ? Mettons, il y a un bug et tout est public, eh bien, ça ne fait pas non plus de comportement indéfini. D'accord ? Tout reste bien typé, entre guillemets, sémantiquement, mais on a perdu ces mécanismes d'abstraction. Alors, c'est quoi la bonne propriété sémantique pour caractériser cette abstraction de type ? Eh bien, encore une fois, c'est les travaux de John Reynolds qui débouchent là-dessus. Et donc, en fait, ce respect de l'abstraction de type, c'est pas une propriété d'une seule exécution d'un client de l'abstraction, au sens où, par exemple, la sûreté de l'exécution, c'est la propriété d'une exécution, qu'elle ne passe pas par un comportement indéfini. C'est une hyper-propriété, une propriété de plusieurs exécutions du programme, et en fait, c'est une propriété qui relie deux exécutions du programme, mais liées avec deux implémentations différentes de l'abstraction. Et donc c'est ça que Reynolds appelle l'indépendance vis-à-vis des représentations, representation independence. C'est donc un critère qui montre qu'on peut remplacer une implémentation d'un type abstrait, par exemple kappa.t implémenté par une liste de permissions, par une autre implémentation avec un autre type, et ça ne doit pas changer le comportement des clients de l'abstraction. Enfin, on doit pouvoir le faire sans changer le comportement des clients de l'abstraction. Alors, un petit exemple. Donc, deux implémentations de mon abstraction kappa. Donc ici, on a, alors j'ai pris juste trois permissions, P0, P1, P2. À gauche, c'est l'implémentation que j'avais esquissée en termes de liste de permissions. Et on va dire donc que init renvoie toutes les permissions, la liste P0, P1, P2. Allowed, c'est l'appartenance dans une liste. Drop, c'est remove, enlever un élément d'une liste. Et kappa 2, mon autre implémentation, je vais dire que c'est un vecteur de bits, en fait. Donc une capacité, c'est un entier. Le bit 0 dit si j'ai la capacité P0, le bit 1 si j'ai la capacité P1, le bit 2 si j'ai la capacité P2, et les autres bits sont ignorés. Et donc, du coup, par exemple, la capacité initiale, celle qui me donne tous les droits, c'est 7. Mais ça pourrait être moins 1 aussi. Hein. Bon, c'est pas grave. Et puis, allowed and drop, c'est des manipulations de bits, des masquages de bits. Bon. Et maintenant, je vous prétends que si je rends le type T abstrait, ces deux implémentations sont équivalentes. Aucun programme ne va pouvoir les distinguer. Aucun programme bien typé ne va pouvoir les distinguer. Alors, comment est-ce qu'on se convainc de ça? Il faut sortir un peu l'artillerie lourde sémantique, mais... donc, l'idée, c'est qu'on va construire une relation entre nos deux implémentations qui nous dit quand est-ce qu'une liste de permissions et quand est-ce qu'un entier, un vecteur de bits, représente le même ensemble abstrait de permissions. Et donc, ça formalise ce que je vous ai dit tout à l'heure. P0 appartient à la liste si et seulement si le bit 0 de l'entier n est à 1. P1 appartient à la liste si et seulement si le bit 1 de l'entier est à 1. Et P2 est dans la liste si et seulement si le bit 2 de l'entier est à 1. Alors, c'est une relation. Hein. N n'est pas une fonction de L. L n'est pas une fonction de N. L peut contenir des éléments répétés, par exemple. N peut contenir des bits autres que les bits 0, 1 ou 2, c'est pas grave. Donc on a des représentations multiples pour le même ensemble de permissions. Et après, donc, il y a une construction assez standard qui s'appelle la construction des relations logiques, qui permet d'étendre cette relation entre paires de valeurs de type kappa pointé à des relations entre paires de valeurs de n'importe quel type. Par exemple, donc pour un type de base comme les entiers, on dit qu'un entier est en relation uniquement avec lui-même. Donc être en relation avec, ça veut dire représenter la même chose, représenter la même valeur, se comporter pareil. Un entier pouvant être observé, imprimé par exemple, il faut que deux entiers soient égaux pour qu'ils se comportent pareil. Et pour les types flèches, donc quand est-ce que deux fonctions se comportent pareil? Eh bien, c'est si, quand on les applique à deux valeurs reliées, deux arguments qui se comportent pareil au type T, alors les corps des fonctions sont reliés, se comportent pareil au type S. Et donc là, il faut étendre les relations des valeurs aux expressions, aux calculs. Donc une paire de calculs est reliée. Deux calculs sont reliés si leurs valeurs sont reliées. Et donc l'intuition, c'est que donc si on a nos deux expressions A1 et A2 qui sont reliées au type T, le calcul A1 lié avec la première implémentation de kappa, kappa 1, celle avec les listes de permissions, va se comporter pareil que le calcul A2 lié avec l'autre implémentation, celle avec les vecteurs de bits. Et pour ça, donc ça s'appuie sur encore une fois, un résultat puissant qui est le théorème fondamental des relations logiques. Donc si vous avez un terme A bien typé, avec des variables libres, xi, donc ici, il est là, A est ici, il est type tau, sous les hypothèses de que xi a le type tau i. Maintenant, si vous avez des paires de valeurs, vous allez interpréter les xi par des valeurs, soit vi, soit vi'. Vi et vi' étant reliés au type tau i. Et l'idée, donc, c'est que A, dans lequel vous interprétez les xi par les vi, ou A, dans lequel vous interprétez xi par des vi', sont reliés au type tau. Et alors, on va voir en quoi ça répond à notre question. J'observe juste que c'est un résultat qui est strictement plus fort que la sûreté du typage. Ça implique la sûreté du typage, mais c'est strictement plus fort dans la mesure où ça établit également l'indépendance vis-à-vis des représentations. Alors, juste pour finir notre exemple avec des capacités. Donc, comment on fait pour relier les deux implémentations de kappa? Donc, les deux implémentations de kappa, ça va être les VI. Kappa 1, ça va fournir les VI. Kappa 2, ça va fournir les VI'. Et donc, il faut montrer que les opérations sont reliées 2 à 2. Oups, un petit problème ici. Donc, les deux implémentations init sont reliées 2 à 2. Donc, la première, il y en a une qui renvoie la liste P0, P1, P2. On a l'autre ici qui devrait être fun, unit, flèche, 7, donc qui renvoie la valeur 7. Et il faut montrer que ces deux choses-là sont bien reliées au type unit flèche kappa pointée. Et effectivement, c'est juste parce que leurs résultats, P0, P1, P2 et 7, sont reliés au type kappa pointé. Ensuite, il faut montrer que l'implémentation de Allowed, les deux implémentations de Allowed sont reliées, donc celle qui donne l'appartenance dans une liste et celle qui fait le masquage. Et pour ça, ben, ça revient à dire, bon, ben, si j'ai des arguments qui sont reliés, donc la même permission des kappa pointés reliés, alors je renvoie le même booléen. Et pour drop, l'abandon d'une permission, si j'ai la même permission, des ensembles de capacités reliés, j'obtiens des ensembles de capacités reliés. Donc cette relation entre les deux implémentations est bien préservée par nos opérations, compatible avec nos opérations. Et du coup, ben, si on a un programme A de type int, sous les hypothèses de type H, donc sur les trois opérations init, allowed, remove, si on le lit d'un côté avec les opérations fournies par kappa 1, de l'autre avec les opérations fournies par kappa 2, les deux instanciations sont reliées au type int. Et être relié au type int, ça veut dire calculer la même chose. Donc le programme calcule le même entier, et il n'a pas réussi à distinguer entre mes deux implémentations. Bon, donc voilà comment on peut raisonner un peu sémantiquement sur cette notion de type abstrait. Et voilà donc en quoi ça donne des garanties donc, qui vont au-delà de la simple sûreté de l'exécution et que je pense importantes pour la sécurité. Alors maintenant, j'ai cherché un autre exemple de système de type qui justement donne des garanties qui vont plus loin que la simple sécurité de l'exécution, sûreté de l'exécution, excusez-moi. Et donc, j'ai envie de vous parler de typage statique des ressources. Alors, à l'origine, c'est la question de la gestion mémoire explicite. Donc la première ressource qu'on doit gérer, enfin à laquelle on est confronté dans l'informatique, c'est la mémoire vive. Et donc dans les langages de bas niveau, comme C ou C++, il y a de l'allocation dynamique de mémoire et une libération explicite sous le contrôle du programmeur. Par exemple, en C, c'est malloc et free, ou new et delete en C++. Et donc le protocole d'usage typique, c'est je demande à malloc de m'allouer un bloc de taille 10, depuis je travaille, et ensuite je le libère, et l'espace va pouvoir être réutilisé pour d'autres allocations dynamiques. Et alors, comme vous le savez sans doute, c'est une source de nombreuses erreurs de programmation. Alors la première, peut-être la plus bénigne, c'est d'oublier de libérer. Par exemple, entre malloc et le free, ici, j'ai un test, et dans un cas peu fréquent, je retourne immédiatement, ce qui fait que le free n'est pas exécuté. Alors c'est relativement bénin parce que le programme ne va pas planter, mais il va utiliser de plus en plus de mémoire, et donc il peut finir par s'arrêter parce qu'il n'a plus de mémoire. Un exemple moins bénin, c'est use after free, donc utilisation après libération. Donc j'alloue, je travaille, je libère, et oups, je continue à utiliser le pointeur P et à lire et à écrire dans la mémoire. Et on va voir que... alors ça peut planter, peut-être que... l'OS, par exemple, aura récupéré l'espace mémoire utilisé par P, et donc le prochain accès, ce sera une segmentation fault, mais comme on va le voir, ça permet aussi de monter des attaques. Et dans le même ordre d'idée, il y a la double libération. On a libéré une fois, puis après, on libère une deuxième fois. Alors, on va dire, oui, mais bon, c'est évident, si le programme est écrit comme ça, on le voit bien, qu'on fait une double libération. Personne n'écrit du code comme ça. Le problème, c'est que souvent, le premier free va être dans une autre fonction, d'accord, et puis qu'on appelle, et dont on a oublié qu'elle libère. Et du coup, le deuxième free qu'on met pour être symétrique avec le malloc est une erreur. Bon. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? De jolies attaques. Par exemple, mon code malveillant alloue un grand tableau P, et puis il le libère aussitôt, mais il garde son pointeur P, évidemment. Et puis il appelle des fonctions de l'environnement d'exécution, peut-être même du noyau, des fonctions de confiance qui manipulent des données sensibles, et donc les dites fonctions vont faire des allocations dynamiques, émettre des données sensibles en mémoire, et par exemple dans cette zone rouge ici ou cette zone rouge là-bas. Et ensuite, le code malveillant reprend la main, et à partir de P, en faisant un peu d'arithmétique de pointeur, il va pouvoir retrouver les données sensibles, il va pouvoir les lire, il va pouvoir les modifier. D'accord ? Et donc ça, c'est très fort parce que ça invalide la sûreté de l'exécution, même si vous avez un typage fort par ailleurs. D'accord ? Si j'ai une référence vers une paire d'entiers, disons, que je la libère explicitement, que j'alloue une fonction qui va être allouée au même endroit, et que continue à accéder à la paire, eh bien, j'ai violé le système de type. Et donc, c'est pour ça que, en fait, la plupart des langages avec typage fort, la plupart des langages qui garantissent l'exécution, la sûreté de l'exécution, ne permettent pas la désallocation explicite. Donc, au contraire, ils s'appuient sur une récupération automatique par l'environnement d'exécution des blocs mémoire qui ne sont plus utilisables. Par exemple, avec des comptes de référence, par exemple, avec des garbage collectors, glanage de cellules, donc qui trouvent tous les blocs accessibles et récupèrent les autres, etc. Donc ça, c'est apparu dès le langage Lisp, tout début des années 60, avec ensuite donc, dans tous les langages fonctionnels. Les langages de script, JavaScript et autres, ont une gestion automatique de mémoire, et Java, puis Go, dans les langages plus système, ont aussi de la gestion automatique de mémoire. Et donc, si j'avais fait cet exposé il y a 10 ans, je vous aurais dit que c'était indispensable pour le typage fort et la sûreté de l'exécution. En fait, bon, comme on va le voir, il y a de nouvelles approches qu'on trouve dans le langage Rust, par exemple, qui sont très prometteuses pour concilier libération explicite et sûreté de l'exécution. Et alors oui, pourquoi tout le monde ne fait pas de la gestion mémoire automatique ? Il y a l'impression, le sentiment que ce n'est pas toujours applicable. Si vous êtes dans le noyau d'un OS, si vous êtes dans les couches basses du système, très proche du hardware, peut-être vous n'avez pas trop la possibilité d'utiliser une gestion automatique. Aussi, si vous êtes en train d'implémenter une gestion mémoire automatique, d'implémenter un garbage collector, par exemple, il faut bien commencer quelque part et donc gérer explicitement la mémoire. Et puis, le point surtout sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a d'autres sortes de ressources. Il n'y a pas que la mémoire, et qui posent encore des problèmes de gestion manuelle. Alors, un exemple typique sont les descripteurs de fichiers. Donc, ce sont des indirections vers des structures de données dans le noyau, d'accord, qui représentent un droit d'accès dans un fichier. Donc, ce sont des ressources mémoire, et c'est aussi des ressources qui vont un peu plus loin que ça, parce que l'état d'un fichier, c'est observable par tout le monde sur le système, et, alors que l'état de la mémoire, c'est observable que par le processus. Donc, c'est une raison de plus pour être très explicite dans les manipulations de fichiers. Alors, une API classique pour lire ou, dans des fichiers. Donc, je vais faire des exemples à peu près dans une syntaxe à la camel. Donc, trois fonctions. Une pour ouvrir un fichier. Étant donné un nom de fichier, on obtient un descripteur. Une pour lire une ligne depuis le descripteur et avancer le descripteur sur la ligne suivante. Et une pour fermer le descripteur et dire au noyau qu'il peut récupérer réutiliser les données correspondantes. Alors, une utilisation typique, oups, il y a un petit bug de LaTeX ici. Donc j'ouvre le fichier foo, j'obtiens un descripteur f de type file, je lis une ligne, je ferme le fichier f et le descripteur f et je renvoie la ligne. Oui, là, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de formatage de mon LaTeX. Ça m'apprendra. Je le corrigerai sur la version des transparents qui seront sur le site web du collège. Alors, on peut. Il y a plein d'erreurs possibles. D'abord, on peut faire fuiter le descripteur de fichier en oubliant de le fermer. On a l'impression qu'on l'a bien enfermé ici, mais si le fichier est vide, input line va lever une exception et le close qui suit ne sera jamais exécuté. On peut faire des lectures après fermeture, donc on ferme, puis on appelle input line. On peut faire une double fermeture, on ferme, puis on ferme. Et encore une fois, quand je dis on, ça peut être des fonctions qu'on appelle en leur passant ref en argument. Alors typiquement, ces erreurs sont détectées dynamiquement, lèvent des exceptions, donc ce n'est pas une menace sur la sûreté de l'exécution. Qu'est-ce qui peut se passer ? Oui, donc je disais, parfois, c'est les fonctions qu'on appelle qui font des choses. Ici, on a une fonction à laquelle on donne deux descripteurs de fichiers, et qui fait des choses, par exemple, lit des lignes alternativement d'un côté et de l'autre, puis ferme les deux. Et une fonction comme ça, elle est correcte si on lui donne deux descripteurs différents. Et si on lui donne le même descripteur, si F1 et F2 sont des alias pour la même ressource, on a une double fermeture. Alors là, c'est un exemple plus compliqué, et le formatage LaTeX n'aide pas. Maintenant, on a une fonction interleave qui prend une liste de descripteurs de fichiers, qui fait des choses avec, et puis qui les ferme. Et là, on l'appelle deux fois, alors avec des listes où les descripteurs sont disjoints, un descripteur F et puis un sur le fichier J, et puis là, un descripteur F et un sur un autre descripteur. Donc F est partagé entre nos deux listes L1 et L2. Du coup, la première appelle L1 ferme F et le deuxième va essayer de lire depuis F. D'accord ? Donc, on a des problèmes d'aliasing et de partage pas bien maîtrisés. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter tous ces problèmes avec du typage statique ? Donc ça, c'est une idée qui est apparue d'abord dans le cadre des langages fonctionnels purs. Donc moralement, dans un langage comme ça, Haskell par exemple, on ne modifie pas de ressource, mais on va renvoyer une ressource modifiée. Et donc par exemple, InputLine prend l'état courant du fichier, avec la position et tout, et renvoie la ligne et le nouvel état du fichier, celui qui pointe sur la ligne d'après. Alors on a tous les problèmes d'avant, en particulier... par exemple, faire close et puis continuer. Si, on peut tout à fait faire close et puis continuer à utiliser le fichier. Et on a un problème de plus qui est qu'est-ce qui se passe si on utilise deux fois la même valeur de type file ? Donc, à gauche, il y a une utilisation dite linéaire de la valeur de type file où le fichier qu'on passe à input line, c'est celui envoyé par open et il nous renvoie un nouveau fichier F2 qui est celui qu'on passe au input line suivant et ça nous renvoie un F3. Donc là, on est bien en train de lire séquentiellement. Les lignes du fichier, et il n'y a jamais qu'un état du fichier utilisé. Mais on peut faire une erreur et utiliser deux fois F1. Alors déjà, la sémantique est moins claire, parce qu'on va lire deux fois la même ligne, et ensuite, ici, on peut imaginer une implémentation impérative sous le capot, d'accord, alors que là, clairement, on ne va pas pouvoir. Bon. Et donc, le premier langage fonctionnel pur qui s'est attaqué à ce problème, c'est le langage clean. Alors, à l'origine, c'était pour avoir des opérations efficaces sur les tableaux. Quand vous êtes dans le langage fonctionnel et que vous avez des tableaux, modifier un tableau, a priori, ça vous renvoie un nouveau tableau, donc il faut tout copier pour changer une case, sauf si vous savez qu'il n'y a qu'une référence sur le tableau, auquel cas vous pouvez le modifier en place et renvoyer l'argument comme résultat. D'accord. Et donc, pour savoir justement le fait que, est-ce qu'une valeur est accessible par une seule référence ou non, Clean avait introduit ces notions de type unique. Donc, unique de taux, c'est les valeurs de type taux accessibles via une seule référence, et donc implémentable par modification en place. Alors, on peut donc décorer notre API fonctionnelle avec des types uniques, et ça va empêcher la réutilisation intempestive, puisque ici, on se retrouve à passer la référence F1 deux fois, donc à passer deux références, disons, vers F1. Et donc ça, c'est rejeté au typage. En revanche, il y a d'autres erreurs qui ne sont pas évitées, comme par exemple oublier de faire close. D'accord ? Puisque ça, ne pas utiliser, ça ne viole pas la politique accessible par une seule référence. Quelques années plus tard, il y a eu des travaux sur les types linéaires, inspirés par la logique linéaire. Donc ça, c'est une notion un petit peu différente de linéarité. Cette fois-ci, donc on a le fameux type de fonction sigma sucette taux, enfin pardon, sigma flèche spéciale taux, flèche linéaire taux, qui sont donc c'est comme l'implication linéaire, sont des fonctions qui utilisent leur argument exactement une fois. Après, il y a aussi l'implication affine, donc qui sont les fonctions affines, celles qui utilisent les arguments 0 ou une fois, mais pas plusieurs fois. Avec des fonctions comme ça, on peut contrôler assez finement ce qui se passe. Donc, par exemple, input line prend un fichier et renvoie donc de manière linéaire une chaîne et un nouveau fichier. Close prend un fichier et ne renvoie rien, et c'est une fonction linéaire. Donc ça, l'idée, c'est que ça va consommer, absorber la dernière référence au fichier. Et maintenant, si on écrit open comme ça, de manière un petit peu indirecte, on passe à open le consommateur du fichier, qui doit être une fonction linéaire, qui doit utiliser le fichier linéairement pour produire un résultat alpha, alors on obtient un alpha. Et avec ce style, un tout petit peu indirect, on arrive à la fois à empêcher la réutilisation et obliger à appeler close à la fin, parce que si la fonction oublie de faire close, ça veut dire qu'elle n'aura pas consommé son argument file ou une autre valeur de type file, et elle ne sera pas linéaire. En revanche, si on écrit juste open qui est string flash file, ça ne donne pas assez de garantie, on peut quand même continuer à utiliser le résultat plusieurs fois. Bon, donc voilà le genre de choses qu'on peut faire dans les langages fonctionnels purs, mais qui sont encore un peu en débat. Il y a eu plein de propositions de typage linéaire pour différents langages fonctionnels, et pas encore vraiment de consensus. Maintenant, on peut parler d'une approche plus impérative, issue des langages à objets, et qui est popularisée par le langage Rust. Bon, mais je vais continuer à faire mes exemples en pseudo-camel. Donc, on revient vers une API impérative, d'accord ? Open, c'est string flash file, et close, c'est file flash unit. Et l'idée, c'est que donc file, les valeurs de type file, ce sont des ressources, et chaque ressource doit être possédée par une variable. Et par exemple, quand je fais let f égale open de foo, j'obtiens une ressource, et elle est possédée par la variable f. Et donc la première idée, c'est d'associer possession et portée de la liaison. Dire que quand la variable atteint la fin de sa portée, sort de sa portée, alors il y a automatiquement une libération de la ressource. Donc un appel implicite à closed, qui est la fonction destructeur qui est associée au type file. Donc ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en C++, d'accord, les histoires de resource acquisition is initialization, par exemple, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Et alors en C++, ça marche bien, sauf que qu'est-ce qui se passe quand maintenant quand on passe le f à d'autres fonctions, par exemple. Si on fait une fermeture explicite de f, à ce moment-là, ce que Rust et les langages donc, qui savent tracer la position des ressources sont capables de voir, c'est que la ressource f est maintenant transférée à close. D'accord, donc close va... C'est maintenant close qui est responsable, et a priori, c'est close donc, qui va la libérer à la fin de l'utilisation. Et du coup, il n'y aura plus d'appel implicite au destructeur à close de f à la fin de la portée. D'accord. Et donc ça, c'est joli parce que ça évite déjà plein d'erreurs. Après avoir transféré la ressource, on ne peut plus s'en servir. Donc on ne peut pas, en particulier, on ne peut pas la transférer à nouveau. Et ça, ça empêche de faire deux clauses en séquence. Le deuxième clause utiliserait une ressource déjà transférée par le premier clause. On ne peut pas non plus tromper le système en prenant un alias, en disant « Ok, je vais dire que G, c'est un alias sur F, et puis maintenant, je vais pouvoir fermer indépendamment F et G ». Donc non, le tipeur voit dans votre jeu, et en fait, il traite let g égale f, non pas comme une prise d'alias, mais comme un transfert. Donc maintenant, g est le possesseur de l'objet, et f ne possède plus rien. Du coup, close de f est rejeté. D'accord ? Voilà, donc ça, c'était pour ouvrir et pour fermer. Maintenant, comment est-ce qu'on lit des lignes ? Ou comment est-ce qu'on consulte, par exemple, la position courante dans le fichier ? Et alors, dans une approche fonctionnelle pure, justement, on donnerait à InputLine, on transférerait à InputLine la propriété de la ressource, et puis InputLine nous la rendrait en résultat supplémentaire. D'accord ? Mais bon, ce n'est pas le style impératif recherché dans ces langages-là. On veut juste donner quelque chose à InputLine et que InputLine opère dessus. Mais on ne veut pas lui donner la possession complète, on veut juste lui prêter la ressource. Donc, c'est ce qu'ils appellent un emprunt, borrowing. Un emprunt, donc, c'est un droit temporaire pour utiliser la ressource. Et donc, on peut emprunter temporairement de manière mutable F, la valeur de type file, pour la passer à input line. Et input line va pouvoir donc opérer sur F, mais implicitement, à la fin, retour de input line, l'emprunt est terminé. Et la fonction implant donc récupère la possession de la ressource et peut la fermer. Alors pendant la durée d'un emprunt mutable, le possesseur ne peut faire aucune action sur la ressource. Par exemple, ici j'ai pris explicitement l'emprunt que j'appelle B et que je vais passer à input line ensuite. Entre les deux, donc l'emprunt est actif et je ne peux pas fermer le fichier F. De même, je peux prendre un emprunt et pendant qu'il est actif, je ne peux pas prendre un deuxième emprunt mutable. L'exception, donc, c'est qu'il y a aussi des emprunts non mutables. Par exemple, pour consulter la position dans un fichier, on n'a pas besoin de muter le fichier. Et donc, des langages comme Rust vous permettent de prendre plusieurs emprunts non mutables en même temps. Et par exemple, ici, deux emprunts qui vont servir à calculer des positions. Donc ça, c'est un principe qui est tout à fait valable, qui est de dire une donnée est soit mutable, soit partagée, mais pas les deux en même temps. Et alors, il y a plein d'applications sécuritaires envisageables pour ce type de traçage des ressources par le typage. Je pense qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore fait vraiment le tour, mais en voici une qui a été pas mal étudiée, notamment dans le cadre d'un système d'exploitation expérimental de Microsoft qui s'appelait Singularity, qui est le passage de messages sans copie. Donc, vous avez une API avec send et receive. Donc, send qui prend un buffer, un tableau dans lequel le producteur a préparé un message, et puis receive, donc, qui permet à un autre thread de récupérer le message et de travailler dessus. Et donc, l'idée, alors, on aimerait, bien sûr, qu'il n'y ait pas besoin de copier le contenu du message pendant la communication. Et si on utilise donc les notions de possession pour tracer les messages, on arrive justement dans les bonnes conditions pour faire ça. Donc ici, l'expéditeur du message donc, crée un nouveau buffer, le remplit avec des emprunts mutables et le donne entièrement à send. Donc ça, ce n'est pas un emprunt qu'on donne à send, c'est la possession complète du buffer. Et donc à partir de ce moment-là, le thread de gauche ne peut plus rien faire sur le buffer, aucune modification. Et le thread de droite, lui, va acquérir la possession du buffer. Il va pouvoir faire des tests dessus avec des emprunts non mutables, des utilisations éventuellement avec des emprunts mutables, et puis à la fin, le buffer va être libéré. Et ça, c'est une garantie très importante qu'après le send qui est fait par le thread de gauche, il ne peut plus manipuler B. Ça évite une attaque connue qui est sous le nom de time of check to time of use, qui consiste à dire, ben voilà, si on pouvait modifier ici juste au bon moment, on pourrait modifier après que le thread de droite a fait ses vérifications, mais avant qu'il ne l'utilise vraiment. Et donc, si on change l'état du message entre ces deux choses-là, on est donc entre le time of check et le time of use, et on a invalidé les garanties obtenues par le check. Voilà. Et donc, c'est typiquement pour des raisons comme ça que les API de passage par message souvent copient. Alors, ici, on prend une copie privée du message pour être sûr que personne d'autre ne la modifie, mais c'est beaucoup moins efficace. Et donc, des politiques donc, de type linéaire ou de type qui trace l'utilisation des ressources permettent de faire ce genre de code de manière à la fois efficace et sûre. Voilà. Alors, pour finir le cours, j'espère qu'il me reste un peu de temps. Oui. Maintenant, je voulais plutôt arrêter de parler des vertus du typage et plutôt parler un peu des mécanismes qui permettent de l'assurer, de vérifier les types. Alors, au niveau d'un langage source, bon, tout le monde sait écrire un interpréteur avec des types, des tests de type ou écrire un vérificateur de type. Ça peut être un peu compliqué. Après, des questions similaires se sont posées aussi dans le contexte du code mobile, où ce qu'on veut typer n'est pas forcément du code source. Donc le code mobile, les applets par exemple, dont on avait un peu parlé déjà dans le cours, il y a l'idée qu'on a un producteur de code et un utilisateur de code qui ne se font pas confiance, le producteur, donc, écrit le code source, éventuellement le compile, ça produit le format d'échange, qui est changé sur l'Internet. Ça peut être du code source, du JavaScript, ça peut être un format intermédiaire, comme le code compilé de la machine Java, JVM, ça peut être du code natif pour un vrai processeur, binaire x86. Et au niveau de l'utilisateur, ensuite, il peut soit faire une exécution défensive, avec plein de tests à l'exécution, soit une vérification statique, un typage par exemple, suivi d'une exécution offensive, c'est-à-dire avec moins de vérification dynamique. Bon. Et donc la question que je voulais montrer sur deux exemples, c'est quel genre de vérification statique on peut effectuer sur des codes de machines virtuelles, on va prendre la JVM comme exemple, ou de machines réelles, le x86. Alors, sur JVM, donc, c'est la célèbre vérification de bytecode Java. Donc, c'est une analyse statique qui est effectuée sur le code compilé, qu'on appelle le JVM bytecode, et qui établit un certain nombre de propriétés avant l'exécution. Alors, il y a les propriétés de bon typage, par exemple que chaque instruction de la machine reçoit des arguments du type attendu. Get field, si on demande de lire le champ F de la classe C dans un objet, l'objet reçu est forcément de la classe C ou d'une sous-classe. Mais il y a d'autres vérifications, c'est un peu dans tous les sens, le code est bien formé, on ne branche pas au milieu d'une autre méthode, la pile d'expressions ne déborde pas, au moins à l'intérieur d'une même méthode, entre méthodes il y a une vérification dynamique, les variables locales, qui s'appellent des registres, dans la machine sont initialisées avant usage, les objets, les instances de classe sont initialisées avant usage, on appelle forcément un constructeur de la classe avant de pouvoir utiliser l'objet, les modificateurs de visibilité qu'on a vu tout à l'heure, private, sont respectés, etc. Après, ça laisse un certain nombre de vérifications importantes pour la sûreté et pour la sécurité à effectuer dynamiquement. Les tests de borne lors des accès au tableau, les tests pour des références nulles, le downcasting, conversion vers des sous-classes, le typage de quand on affecte dans un tableau d'objets parce qu'ils ont affirmé que c'était covariant alors que ça ne l'est pas, et aussi tout ce qui touche autour du security manager dont on avait déjà parlé et de l'inspection de la pile pour savoir dans quel contexte on est appelé. Alors, vérifier du code sans branchement, c'est pas compliqué, c'est essentiellement exécuter le code JVM mais par une machine abstraite, une machine qui travaille au niveau des types et non pas des valeurs. Donc elle a une pile de types, elle a un banc de registre contenant des types. Pour chaque instruction, elle vérifie les types de ses arguments, c'est une machine défensive, elle calcule le type du résultat. Et alors, c'est extrêmement simple, donc là je vous montre le code correspondant à cette méthode move, qui incrémente une variable d'instance et puis appelle une autre méthode d.draw. Alors il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, bon, vous voyez les lectures, écriture du champ X et appel de la méthode draw, et puis un peu d'arithmétique au milieu, et l'exécution par la machine défensive, donc au début on démarre avec R0 qui est le registre 0 qui est le self, donc un objet de la classe C, R1 qui est le paramètre de la méthode de type int, R2 qui n'est pas initialisé, donc de type top, la pile qui est vide. Si on charge le registre 0, on a une valeur de type C au sommet de la pile, qu'on duplique, on a deux valeurs de type C au sommet de la pile, on en consomme une pour lire le champ C.x, donc c'est bien typé et ça produit un entier, on duplique cet entier, on stocke dans la variable 2, dans le registre 2, donc qui maintenant a un type int, et ainsi, on fait un peu d'arithmétique, et ainsi de suite. Et tout se passe bien. Et alors, bien sûr, dans le vrai code JVM, on a des branchements conditionnels, par exemple pour le if then else, des points de bifurcation dans le flow de contrôle, et puis on a des points de jointure aussi, où deux branches différentes convergent. Et donc, on traite ça comme une analyse classique par flow de données. Au point de bifurcation, on propage les types à la fin du bloc de base vers l'entrée des blocs de base successeurs. Et puis, à un point de jointure, on prend le max, on prend une borne supérieure des types inférés à la fin des prédécesseurs. Et puis, on peut bien sûr avoir des boucles dans la graphe qui correspondent à des boucles dans le code source, et du coup, on fait une analyse par point fixe, on itère jusqu'à ce que tout soit stable. Donc ça, c'est des choses dont on avait un peu parlé dans le cours sur les analyses statiques mécanisées. Alors, j'ai dit borne supérieure, ça veut dire qu'on est dans un treillis. Donc, les types forment un treillis, et c'est plus ou moins le cas. Donc là, je vous ai fait le treillis des types de la JVM. On retrouve les objets avec leur relation de sous-typage. On retrouve top au sommet, qui est le type de n'importe quelle valeur. Nul, qui est le type de la référence nuls, donc, les entiers qui ne sont pas des objets, des tableaux qui sont des objets, etc. Alors après, il y a eu un certain nombre de points délicats autour de la vérification de bytecode Java, qui ont fait couler beaucoup d'encre, d'abord parce que ça permettait de monter des attaques, ensuite parce que ça a été très étudié par des universitaires. Donc par exemple, on a des interfaces qui, dans la hiérarchie de classe Java qui compliquent les choses parce que la relation de sous-typage n'est pas un demi-treillis. On a un protocole d'initialisation des objets qui est un peu compliqué, puisqu'on appelle un constructeur et ça fait une espèce d'effet de bord sur l'objet qui passe de l'état non initialisé à l'état initialisé. Il faut tracer ça avec une analyse de type must-alias. On a les subroutines, les subroutines, qui est un mécanisme de partage de code au sein d'une même méthode, qui ne sert plus aujourd'hui, mais et qui nécessitait une analyse polyvariante, puisque la subroutine pouvait être appelée depuis différents contextes de type. Bon, bref. Un certain nombre de difficultés. Alors, je vous montre juste les interfaces, parce que c'est rigolo. En Java, une classe peut implémenter plusieurs interfaces, et donc elle devient sous-type de plusieurs interfaces. Et du coup, on n'a pas un demi-treillis dans l'ordre de sous-typage. C1 et C2 ont deux, chacun comme super-type immédiat, I et J, qui sont incomparables. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Alors, on peut faire plein de choses pour régler ce problème. La plus jolie, c'est d'ajouter des points dans le treillis, dans l'ordre partiel, pour qu'ils deviennent un sub-demi-treillis. Par exemple, ici, une pseudo-interface I en J. Et alors, c'est une construction mathématique connue sous le nom de complétion de Dedekind-MacNeil et qui se fait facilement avant la vérification. Mais en fait, ce n'était pas la solution retenue dans le vérificateur de Sun, qui était juste d'ignorer les interfaces et du coup les traiter toutes comme objects. À ce moment-là, on a bien un treillis puisqu'il n'y a qu'une seule superclasse par classe. Et du coup, on perd, le vérificateur n'est plus capable de nous garantir qu'un objet appartient à une interface. Et donc, les opérations sur les interfaces doivent faire des tests dynamiques supplémentaires. Bon. Et puis, en fait, toutes ces complications, à force d'introduire des bugs et ainsi de suite, donc les développeurs de Java sont passés à une autre approche, qui est une vérification assistée par certificat, suite aux travaux d'Eva Rose au début des années 2000. Et l'idée, c'est qu'on va faire travailler le compilateur davantage. Il va annoter le bytecode produit avec ce qu'ils appellent des stack maps, c'est-à-dire des types, en fait, des types de la pile et des registres, à certains points du code. Alors, à partir de Java 7, donc c'est à chaque début de bloc de base. Et dans les travaux d'Eva Rose, c'est même un peu plus léger que ça. C'est à chaque instruction où on a besoin. Donc, en gros, à chaque instruction où l'état, au début, n'est pas celui de l'état à la fin de l'instruction précédente. Donc à chaque point où quelque chose change. Voilà. Et du coup, on a une vérification de type qui se fait en une seule passe, juste par examen de chaque bloc de base. Il n'y a pas d'itération de point fixe et il n'y a pas besoin de calculer de bornes supérieures. Quelque part, les bons majorants sont déjà écrits, fournis sous forme de stack maps. Voilà. Donc un exemple où on peut simplifier le travail de vérification sur le client, l'utilisateur du code mobile, en faisant travailler un petit peu plus le producteur du code mobile. Et en fait, donc cette idée, elle est apparue bien avant, au tout début des réflexions sur le code mobile, et sous une forme extraordinairement générale. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour en parler aujourd'hui. Donc, c'est le proof carrying code, l'idée de code auto-certifiant, développé par Nekula et Lee, donc à partir de 1996. Et donc c'est une approche vraiment très générale, très ambitieuse pour la sécurité du code mobile. Donc on veut avoir beaucoup de liberté pour le langage dans lequel est écrit le code mobile. Par exemple, ça peut être du code machine, x86 ou autre, produit par un compilateur optimisant, voire écrit à la main. Donc pas du code d'une machine abstraite a priori. On veut avoir beaucoup de flexibilité pour choisir la politique de sécurité qu'impose le client. Ça peut être juste une sûreté du typage, ça peut être des triplets de OR dans une logique de programme. Et du coup, la vérification du code vis-à-vis de la politique peut être coûteuse, peut être indécidable, s'il faut faire de la preuve de programme en général, mais il y a de la démonstration automatique générale qui est impliquée là-dedans, mais l'idée, c'est que justement, on va utiliser des certificats pour la rendre possible, rendre cette vérification possible et pas trop coûteuse. Donc, on sépare la vérification du code en deux phases. Du côté du fournisseur de code, il y a la production d'un terme de preuve, d'un certificat qui atteste que le code correspond à la politique de sécurité. Et du côté de l'utilisateur du code, il suffit de vérifier la cohérence entre certificat, code et propriété attendue. Alors, la vérification de bytecode Java, qu'on vient de voir, c'est une instance de ça. La certification, c'est produire les stack maps aux bons endroits du code. Et la validation, c'est vérifier le bon typage de chaque bloc de base vis-à-vis des stack maps qui sont fournis. Et c'est plus léger que de vérifier si on n'avait pas les stack maps. Alors, l'exemple plus spectaculaire, c'est la démonstration d'un théorème dans un système comme Coq, donc basé sur la théorie des types. La certification, c'est construire un terme de preuve, un terme petit p qui a le type grand P. La construction peut être compliquée, impliquer de la preuve interactive, des tactiques, des procédures de décision, etc. Mais une fois que le terme de preuve P est fourni, il est relativement facile de le valider. C'est juste un typage qu'il a bien le type grand P. D'accord. Et donc ici, c'est le terme de preuve qui joue le rôle de certificat. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée donc, de Proof Carrying Code. Donc voilà ce que ça donne comme architecture générale. Donc on a une politique de sécurité, des règles qu'on veut faire respecter, qui sont communes aux producteurs et aux clients, aux consommateurs. Le producteur produit à la fois du code natif, par exemple, et une preuve, un terme de preuve, un certificat qu'il vérifie les règles de sécurité. Le client, le consommateur, peut valider tout ça et, si ça passe, exécuter le code. Et alors après, je ne sais pas si j'ai le temps, bon, je vais peut-être déborder un tout petit peu, donc je voulais montrer un exemple assez simple de mise en pratique de ça que je tire de la thèse de PhD de Georges Nekula. Par exemple, il regarde une politique de sécurité très simple, donc qui mélange un peu de typage et un petit peu de contraintes arithmétiques. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un type booléen qui est abstrait, sur lequel on peut faire des « et » et des « ou » et qui est de taille 1, mais c'est tout ce qu'on sait. Et en particulier, on ne sait pas que 0, c'est « false », par exemple. Et puis, on a des tableaux dans lesquels on peut accéder on est dans les bornes. Donc c'est là que ça va un peu plus loin qu'un typage normal. C'est un typage qui, en plus, a des contraintes, des inégalités entières. Donc c'est ça la politique de sécurité. Après, donc, il imagine un compilateur qui va produire du code de machine optimisé pour un petit processeur RISC. Donc ici, c'est une boucle de type for all, donc qui vérifie que tous les booléens d'un tableau sont à 1, ou quelque chose comme ça. Et donc là, on a du code qui est optimisé au sens où il n'y a pas de test de borne avant les dynamiques, avant les accès au tableau, mais il y a une petite annotation, un invariant logique qui donne la raison pour laquelle l'accès est toujours dans les bornes. Et donc à partir de ça et des règles de la politique de sécurité, il y a un calcul de plus forte post-condition qui va en fait fournir donc une formule logique qui, si elle est vraie, montre que le code C satisfait le contrat désiré. Alors oui, donc le contrat désiré, c'est que si on lance le code C avec RB qui est un booléen et RA qui est un tableau de booléens dont la longueur est RL, alors le code s'exécute sans erreur et le registre R à la fin contient un booléen. Donc ça se transforme en cette grosse implication logique que le fournisseur de code peut prouver et il peut représenter la preuve ainsi que le programme, le tout étant codé dans le logical framework, qui est une espèce de sous-ensemble de coq, un lambda calcul avec type dépendant, dans lequel on peut exprimer non seulement les termes et les propositions du langage de programmation et de sa logique, mais aussi les termes de preuve. Et donc, un terme de preuve, c'est juste un terme C qui a le type PF de P, d'accord ? Et c'est la seule chose que le vérificateur doit vérifier, que le client du code doit vérifier. Bon. Donc, voilà qui est quand même assez remarquable comme généralisation de cette approche un peu à la Java, où on type en s'aidant d'informations fournies par le producteur. Alors, c'est aussi pas facile à utiliser. Donc, il y a eu deux démonstrations, d'une certaine, au sens prototype, montrant ça en pratique. Donc, un compilateur du bytecode Java vers du code x86 optimisé, qui produit des certificats que le code produit vérifie la sûreté du typage. Et une expérience qui est un peu celle qui a tout commencé, qui a tout lancé, c'est l'injection de code natif dans le noyau pour faire du filtrage de paquets réseau, un peu dans le style des Berkeley Packet Filters dont on a parlé déjà, BPF. Mais là, le code injecté dans le noyau, c'est du code natif du processeur avec un certificat qui montre son innocuité. Et du coup, la vérification qui est faite à l'intérieur du noyau est plutôt plus simple que l'analyse de sûreté de l'exécution que fait BPF ou eBPF, tout en ayant du code très efficace. Et puis, ben, ça s'est un peu arrêté là, parce qu'il y a aussi des problèmes pratiques significatifs avec PCC, Proof Carrying Code. Là, c'est la taille importante des certificats, en particulier lorsqu'ils sont encodés sous forme de termes de preuve LF. Il y a énormément de redondance dans ces termes. Et du coup, Nekula avait développé des techniques assez différentes. L'idée que le vérificateur, c'est un prouveur non déterministe, mais qui est guidé par un oracle. Donc, quand il peut choisir, savoir s'il faut prouver la partie gauche ou la partie droite d'un OU, il y a un bit dans la donnée de l'oracle qui lui dit de quel côté aller. Et donc, le certificat, en fait, c'est ça. C'est l'oracle qui va guider la reconstruction de la preuve. Par ailleurs, il y a quand même beaucoup de choses qui sont axiomatisées a priori dans cette approche, par exemple ces règles pour la politique de sécurité, et puis le calcul, le VCGN, en fait, qui est derrière. Et du coup, pour bien faire, il faut les vérifier séparément, montrer que s'ils sont vérifiés, on a bien un programme qui ne va pas planter, qui respecte l'abstraction du type bool, etc., etc. Et ça a débouché sur l'étape d'après, Foundational Proof Carrying Code, Andrew Apple et Amy Felty, où là, la seule chose qui est axiomatisée, c'est la sémantique opérationnelle du code machine de votre processeur. Et tout le reste, toutes ces notions de typage, de logique de programme, etc., peuvent être construites au-dessus, de manière probablement correcte. Bon, voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, faire un petit point d'étape, et comme ça, on aura encore quelques minutes pour des questions. Donc, la question que j'ai voulu aborder aujourd'hui, par différents côtés, donc c'est... quelle est la contribution du typage à la sécurité? Et alors, on ne le répétera jamais assez, le typage fort, qu'il soit statique, qu'il soit dynamique, fournit des garanties de base sur l'intégrité de l'exécution, l'intégrité des données, l'intégrité de la mémoire, qui sont indispensables à la sécurité du logiciel. Par exemple, je suis tombé sur cette analyse des bugs de sécurité dans Chromium, où ils reconnaissent que 70% de leurs bugs sont dus à des problèmes donc, de use after free, donc de mauvaise gestion explicite de la mémoire, et de other memory unsafety, hein, n'en dites pas plus. Donc bref, c'est dû au fait que leur code est écrit en C++. Je suis désolé, il faut être franc. Dans tout autre langage que C ou C++, donc garantissant le typage fort, et en particulier l'intégrité de la mémoire, ces bugs ne seraient pas des bugs. Mais ce qui m'intéresse, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est d'aller avec vous, c'est d'aller plus loin, de voir est-ce qu'on a des garanties supplémentaires qui peuvent être fournies par certains systèmes de type. Alors la réponse est oui, on a vu que l'abstraction de type donne des garanties d'indépendance vis-à-vis des représentations qui peuvent être exploitées de manière intelligente, par exemple pour avoir des capacités qu'on ne peut pas falsifier. On a vu donc les systèmes de type à la manière de Rust, qui contrôlent la possession et l'utilisation des ressources, et qui ont un grand potentiel aussi en matière de sécurité. Au deuxième cours, on avait vu des systèmes de type pour contrôler les flux d'informations, où on met des labels, des étiquettes, privés, publics, enfin, publics, secrets, ou intègres, pas intègres, sur les données, et donc qui donnent des propriétés sémantiques de non-interférence. Après, j'aurais aimé que cette liste soit plus longue. D'accord. Je pense qu'il reste encore peut-être d'autres contributions du typage à la sécurité qui ne sont pas encore bien identifiées. Alors après, il y a aussi des problèmes quand on s'appuie sur ces approches typées pour avoir de la sécurité. L'une, c'est sont souvent difficiles à combiner un système de type avec à la fois des flux d'informations et de la possession, par exemple. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemblerait. Elles sont aussi parfois difficiles à faire passer dans la pratique. Donc, Rust a réussi, Beaucoup d'autres approches à base de types sont restées à l'état d'articles de recherche. Et puis, il y a aussi l'idée que, bon, au bout d'un moment, le typage, c'est bien, c'est décidable, c'est relativement facile à expliquer aux programmeurs, mais il y a un moment où on ne peut plus, ça ne suffit plus à tracer les propriétés qui nous intéressent, et donc on glisse un peu progressivement vers la preuve de programme, dans des logiques arbitraires. Et c'est aussi un point sur lequel Proof Carrying Code était précurseur. Un formalisme dans lequel on peut aussi bien raisonner sur des sûretés de typage que sur des triplés dehors dans des logiques plus riches. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention.